Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi wa rabbi ya'arf mimouna. Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chaîne 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chaîne 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chaîne 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, Salam Azoul, bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire au cœur de l'islam. Nous sommes, comme le dit un ami collègue, la voix du vendredi, et oui, avec deux passages à 5h et à 14h. Salam alaikum Kamel Chekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors Kamel Chekat, comme nous l'avions promis la semaine dernière, aujourd'hui nous revenons sur les relèvements de nos amis auditeurs.
Oui.
De Ashhor Haram,
oui.
Dhul Hijjah et Muharram, oui. Kamel Chekat.
Déjà, le premier signe, normalement, qui devrait être un signe ostentatoire, c'est le fait de devenir un vecteur de la paix, de paix sociale, de paix dans toutes ses dimensions. Ça, c'est la première chose. Mais c'est des mois aussi qui sont propices à une multitude d'actes cultuels. Donc, c'est mawasim al-khayr, comme on dit. Mm-hmm. Ce sont des périodes propices à tout ce qui est bien.
Qui reviennent de façon régulière,
oui.
Cyclique.
Absolument.
Nous permettant de nous améliorer, d'aller justement vers ce chemin de l'excellence.
Oui. Mm. Si vous partez du principe que l'un des bienfaits du jeûne de Arafat, c'est d'absoudre l'année précédente et l'année en cours. Et là, bien sûr, comme nous l'avons déjà signalé à maintes reprises, les gens nous posent toujours cette question. Ceci veut-il dire que si je jeûne comme il se doit le jour de Arafat, donc je peux tout faire et
renouveler mes erreurs et mes faillites, mes manquements.
Et tout me sera pardonné. Non, ça n'est pas ça n'est pas ce que voulait dire le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam. Ça veut tout simplement dire que si vous y mettez le cœur, Dieu fera en sorte que vous évitiez les péchés, on va dire, capitaux dans l'année en cours, ou de ne pas faire trop d'erreurs dans l'année en cours. Et puis, si ce jeûne est maintenu, vous allez entrer dans une sorte de cycle qui fait que ce qui a précédé est automatiquement absous, et dans ce qui va venir, vous allez jouir ou bénéficier d'une assistance divine qui vous évitera de tomber dans le péché.
Ce sont là, Kamel Chekat, ces mêmes nafahat dont parlait le prophète alayhi salatu wa
sallam. Oui, il y a des nafahat, j'arrive toujours pas à traduire ce terme. Nafha, c'est quelque chose comme ça qui...
Un souffle.
En tout cas, pour un être humain, c'est un choix, c'est une humeur, c'est quelque chose qui n'est pas fondé sur quelque chose de, on va dire, de plausible. Je veux faire telle chose comme ça parce que j'en ai envie. C'est comme une lubie. Mais bon, on ne peut pas dire cela de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des moments comme ça qui ont été choisis par Dieu pour donner un accès à sa miséricorde, à sa grâce, et il faut en profiter.
Kamel Shekat, dans une traduction, j'ai trouvé qu'il était mentionné que ce mot nafahat était traduit en souffle. Il arrive que Dieu envoie ses souffles à certains jours de votre vie. Exposez-vous donc à ces souffles.
Oui, et ça pourrait l'être. Oui.
Durant le mois de Ramadan, Kamel Shekat, on avait parlé de cette fameuse énergie qui était suffisante pour pouvoir nous mettre sur la bonne lancée, sur rail pendant toute l'année.
Oui.
Et dans une de nos émissions, vous disiez que Laylat al-Qadr n'était pas plus importante que Dieu subhanahu, que Dieu était là tout au long de l'année pour accueillir notre tawbah.
Oui.
Et ces ashhur hurum, justement, sont là aussi pour nous permettre un meilleur adr, une meilleure rétribution.
Oui.
Et qui dit adr, dit une certaine assiduité. Plus on fait de bonnes choses, plus on est attiré vers ce chemin des bonnes choses.
Absolument.
Et
absolument.
Du bon sens.
Oui. C'est quand on parle de l'hidayah, la guidance. Nous l'avons déjà expliqué là aussi. Nous avons cette guidance primordiale qui est une sorte de programme inné qui nous mène vers Dieu, qu'on le veuille ou non. Et nous avons une guidance que nous appelons Hidayatut Tawfiq. C'est plus vous allez vers Dieu, plus il vous permet d'aller vers l'excellence quant à ce qui plaît à Dieu. Et c'est ça, c'est-à-dire que dans le cheminement religieux qui devrait être le nôtre, nous avons des obligations religieuses. Si nous les observons bien, c'est tant mieux pour nous, mais si nous ajoutions à ces obligations religieuses d'autres activités cultuelles qui sont surérogatoires, ça ne pourrait que parfaire les obligations. Et ça vous permet encore plus de préserver les obligations religieuses. Si vous vous limitez aux obligations religieuses, avec le temps, vous pouvez les perdre. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Par contre, si vous arriviez à parfaire ces obligations religieuses par une activité surérogatoire supplémentaire, ça veut dire que ce qui est surérogatoire va devenir une sorte de paravent, de pare-feu, de garde-fou qui vous permettent de ne pas tomber plus bas qu'un certain niveau que vous vous êtes fixé.
Kamel Shekat, beaucoup d'entre nous sont heureux pour leurs amis, pour les membres de leur famille qui ont eu ce bonheur de faire le Hajj cette année.
Oui.
Mais beaucoup sont tristes. Pour tout cela, Ibn Rajab al-Hanbali leur dira « Man lam yastati' al-wuquf bi'arafa falyaqif 'inda hududillahi alladhi 'arrafahu ». ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله ليقربه ويزدلفه ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. C'est mentionné dans la Taif al-Ma'arif.
Moi j'aimerais bien essayer de traduire tout cela. Alors, من لم يستطع الوقوف بعرفة, quiconque n'a pas pu procéder à la halte à Arafa, on l'appelle Arafa parce que on dit que quand Adam et Ève sont descendus sur terre, Adam s'est retrouvé du côté des Indes et je ne sais pas où s'est retrouvé Ève, mais ils se sont rencontrés, ils se sont reconnus en cet endroit et c'est à partir de là qu'on a commencé à l'appeler Arafa. Donc, quiconque n'a pas pu procéder à cette halte à Arafa, qu'il s'arrête au niveau des limites de Dieu. C'est-à-dire, nous parlons ici d'une halte virtuelle. بِحُدُودِ اللَّهِ عَرَّفَهِ. Ces mêmes limites qui nous ont été indiquées par Dieu, subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَهِ فَلْيُبَيِّتْ عَزْمَهُ. تَبِيِّتْ الْعَزْمُ ou bien تَبِيِّتْ نِيَ, c'est le fait de faire vœu en son fort intérieur d'être sur une trajectoire qui plaît à Dieu. Parce qu'ici, il dit فَلْيُبَيِّتْ عَزْمَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ لِيُقَرِّبَهُ وَيَزْدَلِفَهُ, c'est-à-dire le rapprocher et le faire admettre, on va dire, dans une cour de privilégiés ou de favoris. وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَحْرِ هَدِيهِ بِمِنَنْ, quiconque n'a pas pu immoler son offrande à Minan, فَلْيَدْبَحْ هَوَاهُ, qu'il immole, qu'il égorge ses passions ici pour atteindre les objectifs souhaités. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْوَصُولَ لِلْبَيْتِ لِأَنَّهُ مِنْهُ بَعِيدٍ, quiconque n'a pas pu arriver à la maison sacrée de Dieu car elle est loin de lui, فَلْيَقْصِدْ رَبَّ الْبَيْتِ, qu'il prenne pour destination le seigneur de cette maison sacrée parce qu'il est plus proche de lui que sa jugulaire, فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allahu Akbar.
Et donc, Kamal Shakat ?
Tout est facile.
La destination
pour peu que
toujours
vous le vouliez. Ça nous rappelle ce fameux hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, qui a dit à ses compagnons, tous, vous accéderez tous au paradis, sauf ceux qui ne le veulent pas. Et on lui dit, mais qui ne le voudrait pas au messager de Dieu ? Quiconque a obéi à Dieu ira au paradis, et quiconque a refusé d'obéir à Dieu, a refusé d'aller vers ce paradis. Donc la chose, elle est à la portée de tout le monde finalement. Alors pour ceux qui n'ont pas pu aller là-bas, à la limite, ça peut se comprendre. Mais pour ceux qui sont allés là-bas une quarantaine de fois, honnêtement, vous savez, même quand on est un super milliardaire, on peut y aller une fois tous les 5 ans, par exemple. On peut dans ses priorités le fait d'aller faire un pèlerinage une fois toutes les 5 années. Ça suffit largement. Nous avons des gens, je connais moi-même des gens qui, depuis très très longtemps, y vont chaque année, quitte à faire n'importe quoi pour y aller. Même si la chose consistait par moment à enfreindre les limites de Dieu, telles que le fait d'acheter un passeport ou de soudoyer des gens pour avoir un passeport pour le Hajj. Ça, je suis désolé, ça n'a absolument rien à voir avec l'esprit que nous a légué le messager de Dieu, alayhi salatu salam, et les pieux prédécesseurs. Avant même de faire ma première visite pieuse, et alors que j'avais la possibilité d'y aller, à plusieurs reprises, l'argent qui était destiné à cela a été donné à des gens qui devaient subir des interventions chirurgicales lourdes, ou bien a été donné à des gens qui étaient en phase de se marier et qui s'étaient retrouvés dans l'impasse. Alhamdoulilah, Rabbi a fait en sorte que je fasse cela en comptant justement sur Dieu pour que la chose se fasse. Et le jour où ça s'est fait, j'ai eu la possibilité de faire un pèlerinage en VIP. Je faisais partie des invités du roi. Et j'ai eu aussi l'occasion de faire une visite pieuse en VIP. Vous imaginez, vous entrez dans Rauda et que vous êtes seul à l'intérieur et vous avez pratiquement 1 heure devant vous. Rauda, c'est un coin du paradis qui existe sur Terre. Quand on fait certaines choses en ne comptant que sur l'agrément de Dieu, quitte à perdre certaines autres choses, Dieu fera en sorte de rattraper le coup pour vous, ne vous en faites pas. Donc, je préfère que les gens comptent sur cela plutôt que de faire n'importe quoi, n'importe comment, juste pour assouvir une envie du moment comme ça, tel que le fait d'aller coûte que coûte faire le pèlerinage. Donc, ceux qui ne sont pas allés à la limite, oui, je pourrais comprendre, mais pour ceux qui ont fait un pèlerinage chaque année pendant les 20 dernières années, je ne vois pas à quoi cela vous sert-il si l'on n'arrive toujours pas à déceler en vous les effets de tous ces pèlerinages successifs.
Kamal Shakat, le départ à la Mecque pour effectuer son hajj nécessite une organisation très rigoureuse, mais le retour nécessite une surveillance encore plus rigoureuse.
Écoutez, n'oubliez pas que si vous avez accompli ce pèlerinage comme il se doit, vous retournez chez vous comme le jour où votre mère vous a mis au monde. Est-ce que ça vaut le coup de retomber ensuite dans des comportements qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui est souhaité en religion? Est-ce que ça vaut le coup? Ensuite, c'est une surveillance de tous les instants.
Comment doit se faire cette surveillance, Kamal Shakat? À quel niveau?
Bon, tout d'abord, la difficulté inhérente à cette surveillance. Il y en a qui n'ont pas besoin de se surveiller parce qu'ils vont vraiment être sur la bonne trajectoire du fait qu'ils aient accompli leur pèlerinage avec toute la bonne intention qui devrait animer le pèlerin avant même d'aller là-bas. Tout comme c'est le cas pour le mois de Ramadan. Qu'est-ce que la preuve ou l'argument qui plaiderait pour un bon pèlerinage? C'est le fait de voir le changement avec lequel va revenir ce pèlerin. Certains vont revenir comme des anges, d'autres, malheureusement pour eux, vont vraiment se transformer en diable. Mais attention, si je dis cela, il faut prendre en considération un autre point. Il y a des gens qui vont faire leur pèlerinage et qui vont, une fois là-bas, prendre conscience de la réalité de sa vie, de cette vie, et qui vont prendre la ferme résolution de changer dans le bon sens. Une fois de retour, ils ne vont plus s'adonner au même comportement qu'ils avaient avant. Ce qui va peut-être gêner certains faisant partie de leur entourage proche, immédiat, Et ces gens qui leur étaient proches et avec lesquels ils se laissaient aller à certains comportements jugés inappropriés, entre guillemets, ces mêmes gens vont dire d'eux « Ah, tu sais, depuis qu'il est revenu, il a complètement changé. » Oui, tu vois, toi, ce changement, et tu le vois d'un mauvais œil, parce qu'il ne fait plus les 400 quoi avec toi, tout simplement. Alors là, il y a des gens qui pourraient médire de certains pèlerins dans ce sens. Et là, c'est celui qui a fait son pèlerinage qui est dans le bon sens, et non celui qui médit de lui. Mais nous remarquons chez certains qu'ils ont vraiment un mauvais comportement à leur retour. J'ai peur de le dire, mais je pense honnêtement que c'est là un signe ou le signe d'un acte, d'un rituel, d'un acte d'adoration qui n'a pas été agréé par Dieu.
Aïe.
Je pense ça et je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation. Je ne pourrais pas penser autre chose dans la mesure où, vraiment pour certains, quand ils reviennent de là-bas, ils ont un comportement exécrable, mais avec tout le monde. Et là, ma foi, qu'est-ce que vous pouvez penser de ce pèlerinage ? D'ailleurs, nous avons un adage chez nos grands-mères qui vous diront « Rahi hajj hajj ». Certains le disent, donc il faut vraiment prendre conscience d'une chose. Notre relation avec Dieu n'admet aucune demi-mesure. Soit vous y allez à fond dans le bon sens, soit n'y allez pas. Si vous avez des manquements, ayez au moins en vous cette correction que de reconnaître que vous êtes un être faible. Et priez Dieu pour que lui-même veille à votre réforme. Mais aller faire quelque chose pour devenir ensuite imbu de sa personne et voir les autres de haut, ça, je suis désolé. C'est l'image que nous avons de ces pauvres, je le dis et je pèse mes mots, ces pauvres, entre guillemets, pseudo-salafistes ou néo-salafistes, dont certains étaient dealers de drogue et du jour au lendemain, ça devient des petits savants en herbe qui sont là pour jeter l'anathème sur toute une nation. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Alors, quand quelqu'un est dans le mauvais chemin, qu'ensuite il intègre une mosquée, pour devenir un assassin qui pourrait aller jusqu'à tuer les gens au prétexte qu'ils ne sont pas sur la bonne trajectoire, ceci est un signe d'une mauvaise repentance. Mmh, et il en est de même pour quelqu'un qui s'adonne à un acte religieux, à un rituel, à un acte cultuel. Si après l'accomplissement répété de cet acte rituel, le comportement reste mauvais, je pense honnêtement que c'est le signe d'un désagrément de Dieu. D'un acte qui n'a pas été agréé par Dieu.
Kamal Chakat, pour la majorité des hadis, cette expérience du hadj laisse quand même une trace, une marque profonde. Dans la plupart du temps, il y a un meilleur comportement, même si vous avez observé quelques manquements ou carrément un écart de conduite, hein. Parce qu'avant le départ au hadj, on était meilleur. Alors, on note une meilleure conscience, peut-être due à cette proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala.
Écoutez, le pèlerinage en lui-même est un voyage initiatique, c'est-à-dire que vous allez là-bas pour changer de peau, pour changer de vie, pour vous réformer.
On est une nouvelle personne carrément.
Pour devenir carrément une nouvelle personne. Vous revenez au monde comme au jour où vous avez été créé par Dieu, c'est-à-dire une page blanche, mais avec une conscience, avec une responsabilité, avec le fait que vous avez une compréhension de la vie qui n'est pas celle d'un petit enfant. Donc à partir de là, tout devrait aller dans un sens qui est propice à votre salut le jour de la résurrection. Et quand nous parlons de comportement, ça ne concerne pas uniquement les actes cultuels, ça concerne aussi, et à un plan tout aussi important que l'acte cultuel lui-même, ça concerne toutes les conséquences d'un acte cultuel, comme la prière, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar », la prière détourne du blâmable et de la turpitude, donc à partir de là, votre pèlerinage devrait faire de vous un bon citoyen.
Comment rester dans cette constance, Kamal Chakat ? Comment maintenir ce comportement spirituel ?
Alors, il faut être assidu aux obligations religieuses, mais il faut aussi les agrémenter des actes surérogatoires.
Très bien.
Ensuite, à partir même au-delà des actes surérogatoires, le sunan, vous allez ensuite devoir encore ajouter à tout cela les actes souhaités en religieux, le mustahabbat. Et à ce moment-là, vous êtes en train d'œuvrer sur trois paliers, si le plus bas, c'est-à-dire celui de ce qui est considéré comme mustahab ou mandoub, donc juste souhaité en religion, s'en va, il vous reste le surérogatoire et l'obligatoire. Si par laxisme ou par manquement, ce qui est d'ordre surérogatoire venait à diminuer ou à disparaître, vous avez au moins préservé ce qui est fait office d'obligation. Mais si vous n'êtes que dans l'obligatoire et que vous fassiez preuve de laxisme ou de relâchement, c'est l'obligatoire qui va partir. Vous avez une partie de votre religiosité qui va disparaître de votre comportement au quotidien. Et quand je dis comportement, le mondain doit automatiquement se conjuguer et se mêler au religieux. Il n'y a pas de dissociation entre les deux dans la logique de l'islam. Donc comment rester sur cette bonne trajectoire en multipliant les actes de bien sans négliger aucun? Et comme l'a si bien dit le messager de Dieu alayhi salatu salam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walaw an talqa akhaka biwajhin talq. Ne sous-estime rien des bonnes mœurs ou de ce qui est souhaité religieusement parlant, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant ou avec un visage affable.
Donc occuper son temps à accomplir de bonnes actions tant que possible.
Oui.
Avoir un quotidien meilleur qu'avant, c'est un signe que le hajj a été accepté, que le hajj est mabrour.
Juste après le pèlerinage, c'est l'un des signes que le pèlerinage a été agréé.
Et si ça continue même au-delà?
C'est ce qui devrait se faire.
Nous avons remarqué, Kemashakat, qu'après le retour des pèlerins, pendant un bon laps de temps, ils ne cessent de raconter ce qu'ils ont vécu. Parfois, on parle même d'un certain nombre de miracles.
C'est pas des miracles, c'est des ruptures de l'habitude, bien entendu, que n'importe qui pourrait connaître dans sa vie. Généralement, c'est les favoris de Dieu, Aulia Allah, les pieux serviteurs de Dieu qui connaissent cela. Des savants, des gens vertueux, etc. Mais bon, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde pourrait assister, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Ça n'est pas une condition sine qua non, mais beaucoup de gens ont généralement accès à ce genre d'expérience, on va dire. Vivre quelque chose qui est un peu, qui sort un peu de l'ordinaire et qui relève du miracle. Oui, certains pourraient le dire. Vous savez, quand vous êtes branché, entre guillemets, connecté à Dieu, on va dire, vous arrivez à déceler les miracles de Dieu, même pour ceux qui paraissent le plus banal. Le fait déjà que vous vous réveillez le matin et que vous soyez animé de cette vie, le fait que votre âme fasse partie de ce monde physique, n'est-ce pas un miracle ? Pourquoi essayer de tomber sur quelque chose qui sort de l'ordinaire ? L'ordinaire en lui-même n'est-il pas en soi un miracle renouvelé?
Oui.
Nous vivons dans ce monde. Le fait déjà que vous preniez conscience que la création de ce cosmos qui nous entoure et dans lequel nous sommes, mais alors infiniment insignifiants, le fait de nous retrouver là et de savoir que cette création de Dieu a toujours cours, elle est en progression constante. Si vous partez du principe que les limites du cosmos, nul ne peut les atteindre puisqu'il y a une expansion du cosmos, puisque ce fameux bouclier de Kelvin ne cesse de s'agrandir, cela n'est-il pas un miracle ? Le fait de voir toutes ces formes de vie qui vous entourent, le fait de voir cette alternance du jour et de la nuit, le fait...
Ou même ces petites choses que vous ne voyez pas, parce qu'on dit que le miracle réside dans les choses les plus petites, les plus simples.
Absolument. Maintenant, écoutez, votre corps est fait à la base de cellules qui, en se regroupant, donnent des tissus. Ces mêmes tissus, en les regroupant, vous avez des organes. Ces mêmes organes, en les regroupant, vous avez des systèmes tels que le système respiratoire, circulatoire, digestif. Et puis, tous ces systèmes regroupés vous donnent un corps qui est animé par la vie. Si vous n'arrivez pas à voir en cela un miracle, à quoi vous sert cette raison dont Dieu vous a doté? Une personne connectée à Dieu est une personne qui arrive à déceler tout cela. Et la chose ne concerne pas uniquement l'usage auquel nous pourrions avoir recours en termes de raison. Le messager de Dieu, alayhi salat, vous le dit dans un hadith, quiconque se réveille le matin en étant sain de corps et d'esprit, en ayant autour de lui tous les membres de sa famille en bonne santé, en ayant la subsistance de sa journée, c'est comme si on avait rassemblé tout ce qui pouvait faire de sa vie une vie agréable de toutes parts. Est-ce que cela, dans la situation que vit notre nation actuellement et surtout avec ce que vivent nos frères à Gaza, est-ce que cela, ça ne vous donne pas matière à réfléchir sur toutes les bonnes choses qui font notre quotidien?
À se maintenir dans la gratitude.
Oui,
surtout.
C'est ça, donc c'est...
Badia Shakur.
Donc c'est à ces petites choses-là que ça se résume en fait. Ça vous permet d'avoir de l'espoir, ça vous permet d'être dans un état qui ferait de vous l'une des entités qui remercie Dieu pour tout ce qu'il lui a accordé, et ça vous fait minimiser les affres de la vie. Donc c'est ça qui nous maintient généralement sur une bonne trajectoire.
Nous sommes donc au cœur de l'islam tous les week-ends, donc tous les vendredis à 5h et à 14h sur Radio Alger Chaîne 3. Et dans la thématique d'aujourd'hui, nous insistons sur le comportement des pèlerins, donc après le retour, après cet immense honneur, après cette bénédiction de Dieu subhanahu, après l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam. Kamal Chekat, juste avant cette pause, nous parlions de certaines ruptures de l'habitude ou ce qu'on appelle communément les miracles. Nous avons tous eu vent de récits, par exemple, de cette personne frappée de cécité qui, se retrouvant face à la Kaaba, elle recouvre la vue.
Oui.
Ou bien cette personne atteinte d'adénocarcinome, d'un cancer, après avoir donc bu de l'eau de Zamzam pendant plusieurs jours, une quinzaine de jours et parfois moins, parfois plus, le médecin ne détecte plus ces cellules cancéreuses. C'est bel et bien des miracles, mais il y a d'autres. Autre miracle, c'est de se mettre sur Sirat al-Mustaqim. Certes, ce n'est pas facile, mais vous disiez que le fait de rester dans cet esprit de dhikr, de l'évocation de Dieu subhanahu, de multiplier les actes de bienfaisance, de charité, c'est une façon de se mettre sur maqam al-ihsan, Kamal Chekat.
Oui, absolument. Alors, Sirat, c'est un pont. C'est un pont qui traverse la GN.
Sirat al-Mustaqim évoqué dans
al-Jannam, oui. Sirat al-Mustaqim évoqué dans Sourat al-Fatiha, c'est voilà. Le droit chemin qui
voilà,
est celui de la rectitude. Mais là, nous parlons d'un pont qui traverse l'enfer, qui traverse la géhenne. Je ne sais plus quel est ce compagnon qui le décrivait et qui disait « Il est aussi fin qu'un cheveu et aussi aiguisé qu'une épée ». Les hadiths que nous avons concernant ce fameux Sirat et que, comme l'a si bien dit le prophète, alayhi salatu wassalam, alors les gens qui le traversent, attention, ce ne sont pas les koufars, ce ne sont pas les munafiqines, les hypocrites, parce que ceux-là, ils sont carrément versés.
Oui.
Il y en a parmi ceux qui le traverseront, qui tomberont dans la GN, mais qui ne sont pas voués à y rester éternellement. Mais en tout cas, parmi ceux qui le traverseront, certains le traverseront à la vitesse d'un éclair, d'autres à la vitesse d'un vent rapide, d'autres à la vitesse d'un oiseau, d'un volatile rapide ou bien d'une marche consistante, certains à la vitesse d'un cheval au galop. Ceci en fonction des œuvres des gens, justement, telles qu'elles étaient dans leur vie terrestre. Et sur ce Sirat, certains textes fondateurs nous parlent de Kalalib mitlashouki sa'dan fatakhtifu nasa bi'a'malihim. Celui qui tombe. Alors ce sont des crochets, des pinces, ou bien comme des épines de chardon, comme ça, qui agripperont les gens. Certains le passeront et seront indemnes, arriveront indemnes à la rive du salut. D'autres seront blessés par ces chardons, par ces crochets ou ces accroches qui veulent les tirer vers le bas. Et certains tomberont, mais ne demeureront pas éternellement dans cette GN. Nous avons même un hadith rapporté par l'imam Ahmed, où le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, « Inna akhira man yadkhulu al-jannata rajulun yamshi ala sirati fa yankabu marratan wa yamshi marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan fa idha jawaza as-sirat altafata ilayha fa qala tabaraka alladhi najjani minki laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan min al-awwalin wa al-akhirin. » Donc il y a des gens qui vont vraiment marcher sur ce pont, sur ce fil, ils sont sur le fil du rasoir, comme dirait l'adage, ils vont tomber, se récupérer, s'accrocher, et puis remonter, et puis à la fin, ils ne pourront que remercier Dieu de les avoir sauvés justement de la chute. C'est ça, Sirat. Le passage est tributaire de votre comportement d'ici-bas, ou la rapidité avec laquelle vous allez le traverser est tributaire de votre bon comportement dans le monde d'ici-bas.
Parmi donc les prières à multiplier, Kamal Shekat, c'est d'être préservé de ce passage, de cette traversée.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des hadiths où le prophète a.s. mentionne ceux qui passeraient rapidement et de façon facile? Quelles sont leurs qualités? Quel a été leur parcours quotidien sur cette terre durant leur vie? Quelles ont été leurs principales qualités?
Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager de Dieu a.s. nous dit « Yudrabu jisru jahannam » donc ce fameux pont. « Fa'akunu awwala min yujiz » donc le premier à passer, c'est le messager de Dieu. Wabihi kalalibu mithla shawki sa'dan, donc il y a des crochets comme les épines d'un chardon. Fatakhtifu an-nasa bi'a'malihim, donc ces mêmes chardons vont agripper les gens et les faire les choper en quelque sorte en raison de leurs œuvres. Minhum al-mubiqu bi'amalihi, certains tomberont du fait qu'ils aient eu de mauvaises actions. Wa minhum al-mukhardalu thumma yanju. Donc il y en a certains qui s'agripperont, qui seront blessés, mais qui, en définitive, passeront ce fameux sirat. Ceux qui passeront comme un éclair, etc., sont ceux qui ont eu le meilleur des comportements dans ce bas-monde, tout simplement.
Pas beaucoup d'actions, forcément?
Pas forcément, quand nous parlons d'actions. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le Coran insiste sur la qualité de l'action et non sur la quantité. Vous avez ce fameux hadith où le messager de Dieu vous dira « Ghalaba dirhamun mi'ata alfi dirham » un dirham l'a emporté sur 100 000 dirhams. Comment cela, lui dit-on au messager de Dieu? Il a dit « Un homme riche qui donnerait 100 000 dirhams de sa fortune et un pauvre qui n'a que 2 dirhams mais qui en donna en guise d'aumône. En dépit de ses besoins, il s'est privé de la moitié de sa fortune. » Alors le dirham qui a été donné par ce pauvre vaut beaucoup plus que les 100 000 dirhams que le super riche aura donné de son surplus, que vous le vouliez ou non. Cela n'ôte aucun mérite aux riches, hein, parce que ce fameux riche qui donne 100 000 dinars et qui les donne de manière régulière est quelqu'un qui a peut-être plus de mérite que le pauvre qui n'en a pas, parce que ce pauvre, d'ailleurs on en a déjà parlé, qu'est-ce qui vaut le plus? Le riche qui remercie Dieu pour les biens qu'il lui a accordés en donnant, en faisant largesse de ses biens, ou bien le pauvre qui fait preuve de patience et d'endurance face à l'adversité de la vie. Beaucoup de savants s'en plaident beaucoup plus pour le riche, parce que ce pauvre qui a fait preuve de patience et d'endurance, il n'a pas eu d'autre choix que d'aller vers cette endurance, même si la chose est difficile et même si cette endurance, on ne va pas la retrouver chez tout le monde. Mais ce riche, ce Richard qui a fait largesse des dons de Dieu ou de ce que Dieu lui a prodigué, c'est quelqu'un qui a énormément de mérite dans la majorité où la chose n'est pas non plus facile. Donc c'est ça, quand nous parlons de ce fameux Sirat et de la vitesse à laquelle on va le traverser et le parcourir en dépit de sa difficulté, eh bien, elle est tributaire de la qualité de l'action et non pas de la quantité. C'est pour ça que le plus important, c'est de se maintenir dans une logique d'action vis-à-vis de Dieu.
Dans cette logique d'action, Kamal Shekat, pardon, est-ce qu'il faut essayer d'en savoir un peu plus ou d'élargir ses connaissances sur la religion, sur la foi? Ibn Rajab al-Hanbali nous parlait de s'arrêter aux limites de Dieu.
Oui.
Est-ce qu'il faudra pousser ses connaissances plus loin, quoi qu'il ne nous ait pas demandé d'être un savant en islam?
Oui, mais maintenant, bien sûr que nous sommes tous tenus de savoir le maximum que nous pourrions savoir sur tout ce qui a trait aux choses, entre guillemets, de la religion. Mais là encore, que vous ayez beaucoup de science ou très peu de science, ce qui va faire la différence entre les gens, c'est ce cœur dont Dieu nous a doté et de la manière dont il interagit vis-à-vis de Dieu ou avec Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Les compagnons chacun était dans sa propre logique. Je ne sais plus quel était ce compagnon du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, qui est passé par un groupe de gens en train de discuter. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, na'uddu hasanatina. Nous sommes en train de compter un peu nos bonnes actions. Un tel a fait tant de louanges, un tel a fait tant de glorifications, un tel a fait ci, un tel a fait cela. Il a dit la ta'uddu hasanatikum walakin, ou bien bal'uddu sayyatikum. Chacun sa logique. Il y a des gens qui sont dans un positivisme tel qu'ils ne pensent qu'aux bonnes actions qu'ils ont faites. C'est une bonne chose si les bonnes actions remplissent toute la journée. D'autres ont peut-être plus de scrupules, ils sont vraiment en train de voir s'ils n'ont pas fait de mal à autrui, s'ils n'ont pas commis un impair, s'ils n'ont pas fait preuve de manquement vis-à-vis de Dieu. Donc chacun a sa logique. Chacun se construit selon la logique qu'il a choisie pour sa propre personne. Le plus important, c'est la finalité de l'acte. Justement. Où est-ce que cela va vous conduire ?
Pourquoi je vous ai posé cette question, Kamal Chekat ? Dans un dars, j'écoutais un moufti qui, dans ses conseils aux pèlerins de retour à leur pays, leur disait de mieux comprendre la Hajjat al-Wada de Sidi Mohammed alayhi salatu wassalam, l'oraison d'adieu, et d'en faire même un manuel de survie.
Oui, Hajjat al-Wada, c'est un code de conduite, c'est une constitution.
Oui.
Guénon parlait des vrais musulmans, de ceux qui sont vraiment assidus au culte, ceux qui sont connectés à Dieu, il parlait d'une constitution intérieure, c'est-à-dire de quelque chose à l'intérieur même de la personne qui va animer tout son comportement, qui va faire en sorte que la personne en question ne tombe pas dans l'erreur, qu'elle ne fasse pas de mal, etc. Et Hajjat al-Wada,
un manuel de survie, comme
oui, carrément, parce que elle vous permet déjà, vous savez, dans cette Hajjat al-Wada, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, on a l'impression qu'il répond au mythe du moment.
Oui.
Vous savez, la pseudo-science qui règne dans le monde actuel, elle nous a gavés de mensonges, dans la mesure où, voilà, on va vers l'humanisme. Et à chaque fois, nous sommes dans ce que nous appelons en langue arabe « harbul mustalahat », la guerre des terminologies. Et le Coran a mis l'accent sur le problème en disant à maintes reprises « in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ». Ce sont là des appellations que, par convention, vous avez imposées, vous et vos pères, et au sujet desquels Dieu n'a pas fait descendre une science avérée. Le fait de parler d'humanisme, vous savez qu'actuellement, beaucoup de musulmans ont tendance à confondre entre humanisme et humanité. L'humanisme, c'est un courant philosophique qui fait de l'homme la mesure de toute chose, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça l'humanisme. Le messager de Dieu, dans cette oraison d'adieu, déjà nous fait comprendre que voilà, vous êtes des êtres humains, vous êtes tributaires du bon vouloir de Dieu, que vous le vouliez ou non. Ensuite, cette oraison d'adieu, qui est d'essence religieuse, elle va avoir des débordements, pratiquement de manière quasi exclusive, d'ordre social. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le fait de prier avec dévotion ou d'accomplir le jeûne avec abnégation, de faire telle ou telle chose. Ça concerne la sacralité de la vie, ça concerne la sacralité des biens, ça concerne le fait de se maintenir dans une logique qui prend en considération l'animosité d'Iblis à l'encontre de l'être humain. Le messager de Dieu ira jusqu'à dire « Inna shaytana qad ya'isa yu'bada bi'ardikum ». Le diable a perdu tout espoir d'être adoré ici sur votre terre. Et c'est vrai, nous n'avons plus d'idole ou de stèle dédiée à Satan, contrairement à ce que font les satanistes actuellement. Mais il s'accommode de ce que vous jugez négligeable de vos comportements. Oui, non, ça c'est pas un problème. Et vous vous laissez aller jusqu'à ce que le mauvais comportement devienne votre constitution intérieure. Il va prendre le pas sur ce qui devrait être votre comportement de musulman. Et vous allez remarquer que dans cette oraison d'adieu, vous avez la notion de déontologie qui va revenir, puisque le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, va commencer par annuler les taux usuraires de son oncle Abbas. Il va faire
la dette de sang d'un de
ses proches, et ainsi de suite. Il va ça veut dire que nous sommes face à une personne qui sait en quoi consiste l'humanité, qui sait en quoi consiste une société. une société qui est amputée de la femme est une société qui est vouée à la disparition, tout simplement. Istawsu binnisa'i khayran. Mais donc, faites bonnes recommandations en faveur des femmes. Et il va donner au bien personnel une sacralité, une dimension terrible. Il va nous plonger dans la réalité de cette vie tout en nous mettant en garde face aux mythes du moment. Des mythes qui sont devenus pratiquement une science et qui animent les cercles dits intellectuels qui, soi-disant, devraient penser, réfléchir à la place de toute l'humanité. Donc, la religion, c'est ça.
Ça touche à l'héritage.
C'est ça. C'est ça. Donc, c'est une véritable constitution qui pourrait devenir, je ne sais pas moi, un acte ou une constitution inhérente à la survie même dans la mesure où elle est propice à la propagation de la vie. Et non le contraire.
On devrait l'étudier à tous les niveaux, Kamal Chakat, cette constitution. Mais appeler ça manuel de survie au lieu de manuel de vie, c'est que il y a des choses contraignantes. Nous sommes
peut-être,
en pleine crise.
Vous savez, quand vous parlez de survie, peut-être que ce terme n'aurait pas été approprié il y a 30 ou 40 ans de cela. Mais là, actuellement, avec tout ce que nous voyons, oui, ça devient vraiment un manuel de survie. Quand vous avez des gens qui se disent bien pensants, qui viennent dans des médias lourds pour dire « Oui, voilà, il faut effacer les habitants de Gaza, il ne faut pas avoir de pitié à leur égard. Oui, nous devons défendre la liberté. » Mais de quelle liberté vous nous parlez, subhanallah al-adhim ? Ça devient vraiment un manuel de survie. Parce que l'humanité ou le genre humain est en train de se déshumaniser face à ce génocide qui est le génocide le mieux documenté, le génocide que tout le monde est en train de vivre en direct, en live, où certains viennent parce que je ne sais quelle chose est en train d'obstruer leur regard. Certains viennent et vous disent « Non, 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 c'est un mal nécessaire, un bien pour un mal. » Alors, ou un mal pour un bien, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Mais en tout cas, « Khutbat al-Wada' » est un serment, une oraison qui renvoie l'être humain à sa responsabilité d'être humain avant de le renvoyer vers sa responsabilité d'adorateur de Dieu.
Voilà, alors nous arrivons au troisième tiers de cette émission, le temps passe vite. Alors nous avons beaucoup de questions autour de la Salat al-Fajr, oui. Karid d'Alger qui nous dit laquelle est obligatoire dans Salat al-Fajr et Salat al-Subh. Est-ce qu'il faut une iqamat salat pour chacune séparément? Et vous avez Sam Ali qui nous dit, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais aujourd'hui je reste sur Salat al-Fajr. Faut-il prier Salat al-Fajr ensuite Subh? Ma fille a entendu parler avec ses copines que le Fajr est une prière obligatoire. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse.
Alors, Salat al-Fajr n'est pas une prière obligatoire. Quand vous avez l'Adhan al-Awwal, là où il n'est pas dit Salatu khayrun min an-nawm, c'est un Adhan qui normalement devrait indiquer à celui qui a envie de jeûner de prendre quelque chose, un suhur, pour entamer son jeûne, ou quelqu'un qui serait en train de faire des prières nocturnes, d'entamer sa chute, c'est-à-dire, voilà, tu vas faire la dernière génuflexion, ou quelque chose,
oui,
comme ça. Liyakouma sa'imukum wa yarji'a qa'imukum, ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. J'ai oublié matin al-hadith. Et puis vous avez le deuxième adhan qui va... Il peut intervenir 20 minutes plus tard, une demi-heure plus tard. Et puis, il y a le deuxième adhan, le deuxième appel, qui peut intervenir une vingtaine de minutes après le premier. Tout dépend du choix de la mosquée. Hein. C'est-à-dire, bon, les deux peuvent être séparés d'une trentaine de minutes, une vingtaine ou même une dizaine de minutes. Le second, on a dans ce second le Salatu Khayrun Min An-Nawm. Nous avons dit une fois déjà pourquoi il y a cet ajout, Salatu Khayrun Min An-Nawm, qui ne fait pas initialement partie de l'Adhan.
Oui, mais Wadakir Kamal Chakat, pourquoi rappeler
Le fait de se lever, de faire cette coupure dans le sommeil, peut éviter des AVC à 8 heures du matin plus précisément. La science a démontré cela. On suppose que c'est pour cette raison qu'il y a eu cet ajout, Salatu Khayrun Min An-Nawm, la prière vaut mieux que le sommeil. Donc, quand il y a ce deuxième Adhan, vous vous levez, vous faites vos ablutions et vous allez procéder à Salat al-Fajr, la prière de l'aube.
Mais vous dites qu'elle n'est pas obligatoire, Kamal Chakat.
Attendez, elle n'est pas obligatoire. C'est une prière surérogatoire, mais qui ne fait pas partie des prières surérogatoires générales.
Si on veut la faire, on la fait, sinon, même si on ne la fait pas, on n'a pas de rythme.
Non, non, elle est fortement, mais très fortement recommandée. C'est pour cela que...
Se rapprochant de l'obligatoire.
Presque. Elle est à un degré au-dessous de l'obligatoire. Les malékites, et même maintenant les autres écoles, appellent cette prière « rariba ». Al-muraghabu fihi, c'est ce qui est fortement recommandé. Pas recommandé uniquement, fortement recommandé. Vous avez ce que nous appelons « rawatib ». Ce sont les 10 ou 12 génuflexions qui accompagnent les prières au quotidien. Avant, salat al-dohr et salat
l'asr, après
salat al-maghrib, etc. Il y a entre 10 et 12 génuflexions. Après l'Isha, vous avez l'Witr. Alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'Witr au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'était 11, 9, 7, 5, 3, ou bien trois génuflexions, raka'at, qu'on peut faire aussi avec un seul tashahud. Attention, il y a un avis. On peut les faire deux par deux, avec un salat slim, ou bien on peut faire le tout d'une traite avec un seul tashahud à la fin. Bon, mais bon, nous ce que nous faisons d'habitude, c'est zouj raka'at bi tashahud ou raka'at al-witr bi tashahud. Mais tout cela est appelé salat al-witr, normalement. Witr parce qu'on termine par une génuflexion en impair. Salat al-Fajr, elle a une particularité. Pour ce qui est, par exemple, des rawatib, vous avez raté le rawatib d'aujourd'hui. Vous ne les refaites pas demain. Par contre, Salat al-Fajr, si vous vous levez en temps opportun, vous allez faire Salat al-Fajr, et puis, soit vous allez... Généralement, il est préférable de la faire à la maison et d'aller à la mosquée. Quand vous irez à la mosquée, vous attendez 20 ou 30 minutes, tout dépend du temps qui a été décidé par la communauté, et vous faites une prière en congrégation qui est Salat Subh, la prière du matin, et qui est une prière obligatoire. De génuflexion où l'imam récite le Coran à voix haute, Salat Biljar. Par contre, Salat al-Fajr, si vous ne vous réveillez pas au moment même de Salat al-Fajr, au moment où il y a eu l'Adhan, vous vous réveillez, on va dire, 45 minutes ou une heure plus tard, qu'il s'agisse de l'été ou de l'hiver. Vous allez vous réveiller à un moment où le lever du soleil ne s'est pas encore effectué. C'est-à-dire que vous allez accomplir uniquement Salat Subh, qui est une obligation. Quel que soit le moment, vous allez le faire. Même si vous vous réveillez après Salat Dhuhr, supposons que vous ayez travaillé toute la nuit, vous vous soyez endormi juste avant l'Adhan al-Fajr et que vous soyez endormi jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Vous vous réveillez, vous devez faire... récupérer Salat Subh et Salat Dhuhr. Mais Salat al-Fajr, c'est bon. Après Dhuhr, elle est partie. Vous ne pouvez plus la récupérer. Ouais. Sauf que, quand vous ne vous êtes pas réveillé en temps opportun, au moment où il fallait le faire, vous vous réveillez, on va dire, une heure plus tard. Vous ne pouvez pas procéder à Salat al-Fajr parce que ce n'est pas une prière obligatoire, c'est une prière surérogatoire, même si elle est fortement recommandée. Vous allez devoir attendre le lever du soleil, le moment où les prières surérogatoires ne sont plus interdites, et c'est à ce moment-là que vous allez la récupérer. De ce moment, du moment du lever du soleil jusqu'à la prière de Dhuhr, vous êtes dans l'obligation pratiquement
de la récupérer.
Quand bien même elle est considérée comme prière surérogatoire. C'est pour ça que nous avons tendance à faire la différence entre ce que nous appelons rariba, fortement recommandé, et sunna, nafila, une prière surérogatoire général. Donc cette salate, il faut la faire. Et nous, ce que nous savons du messager de Dieu, c'est qu'il n'a jamais abandonné cette prière, ni quand il était à Médine, ni quand il était en déplacement. La fi hillihi, wa la fi safarihi ou tirhalihi.
Iqamat salat pour salat al-fajr et salat
Il n'y a pas d'iqamat salat pour al-fajr.
Oui.
Il n'y a iqamat salat que pour les prières obligatoires, c'est-à-dire salat subh. Et pour les prières obligatoires, bien sûr qu'il y a divergence au sujet de Iqamat Salat. Iqamat Salat Sunna Mu'akkada. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas fait Iqamat Salat, que vous entamiez...
Iqamat Salat qui veut dire quoi?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadu an la ilaha illallah, Shadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya al-Salah, Hayya al-Falah. Qad qamati Salat, une fois, généralement chez les Malikites, selon ce qui a été appris au messager de Dieu, par le messager de Dieu à Bilal. Deux fois parce qu'il a été appris au messager de Dieu, alayhi salatu salam, à Bilal, et une fois parce qu'il a été appris au messager de Dieu à la Mecque à Abu Mahdoura. Radiallahu anil jami'a. Donc, Iqamat Salat, c'est ça. Quand vous faites c'est un petit adhan pour dire, voilà, levez-vous, on va commencer la prière. Mm-hmm. Et là, c'est là où on dit, qad qamat salat.
Pour ceux qui n'entendaient pas la Iqamat Salat pendant leur salat précédente, qui viennent de découvrir la chose, Kamal Shakat.
C'est bon, il n'y a rien à récupérer.
Il n'y a pas de ism.
Non. C'est une sunnah mu'akkada. C'est-à-dire que même si vous avez oublié de le faire, ça n'entache en rien ou ça ne porte aucun préjudice à votre prière. Elle est parfaitement valable. Il n'y a ni soujoud ni rien. Pour les hommes, donc déjà l'adhan, il y a une divergence. Est-ce qu'on est censé le faire à chaque prière? Non. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit où on entend l'adhan à la mosquée, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Si vous êtes en voyage avec un groupe et que vous alliez faire votre prière, il est bon de le faire. Sunna, pas plus ni moins. Ce n'est pas, là aussi, ce n'est pas une obligation. Pour Iqamat Salat, sunnatun mu'akkada, c'est fortement recommandé. Même si vous l'oubliez, ça ne pose pas de problème. Pour une femme, elle peut aussi faire Iqamat Salat quand elle prie seule ou même quand elle prie en groupe avec des femmes. Ça ne pose aucun problème. Contrairement à ce qui a circulé il y a pas longtemps, on voyait sur les réseaux sociaux, non, la yajuzu lil mar'ati an tuqima as-salat. Je ne sais pas d'où vient cet avis, en tout cas, c'est pas celui des
savants. C'est les contenus Kamal Shakat d'Instagram, de TikTok. D'ailleurs, notre amie Kerima d'Alger, elle vous dit, il y a toujours du nouveau. Récemment, on fait la promotion de se couvrir les pieds pour la femme au moment de la salat. Apparemment, il est obligatoire de mettre des chaussettes ou carrément se couvrir les pieds. Pourquoi?
Écoutez, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed sont d'avis qu'il faut se couvrir les pieds. Attention, retenez ça en mémoire. Ils sont d'avis, ra'yuhum ala al-wujub, yaquluna bil-wujub. Donc c'est une obligation. L'imam Abu Hanifa n'est pas de cet avis. Dans l'école Shafi'ite, il y a un grand ténor de cette école qui est l'imam al-Muzani qui n'est pas de cet avis, qui dit que ce n'est pas une obligation. Dans l'école Hanbalite, l'icône des icônes de cette école dit que non, c'est Ibn Taymiyyah. Il n'est pas d'avis que ce soit une obligation. Pour les trois premiers qui ont dit que se couvrir les pieds, qalu dhahirul qadamayn, c'est-à-dire le haut du pied, il faut le couvrir. Ils ont dit cela, mais ils sont tous d'avis que si la femme ne le fait pas, sa prière est valide. La tabtulu salat. Et d'un autre côté, ils sont d'avis qu'il est de tradition, qu'il est une obligation de se couvrir wujhul qadamayn, c'est-à-dire le haut du pied, mais pas le bas du pied. Donc, c'est pourquoi? Parce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais plus qui c'est cette sahabia qui a posé la question, qala idha kana al-libasu sabiran. Ça veut dire une femme qui porte un vêtement ample et qui descend jusqu'au sol. Ça suffit amplement. Même si par moment le pied apparaît, ça ne pose aucun problème.
Voilà. Alors, par rapport aux gants, elle n'est pas obligée de mettre les gants au moment de la prière.
Les mains et le visage, la femme, ils peuvent apparaître pendant la prière. Et d'ailleurs, dans le tawaf, la circumambulation, ça devient une règle à observer.
Sans le
niqab, sans rien. Et nous avons des hadiths, Dieu sait que nous avons, les savants ont été un peu plus clairs sur la question. Parmi les plus récents, on entend des gens dire non, elle peut porter un niqab parce que, on entre dans des considérations, franchement, qui...
Toujours la même auditrice, Kerima d'Alger, qui vous dit, concernant les dettes de Ramadan, on nous dit que comme on a interrompu le jeûne durant plusieurs jours d'affilée, il faudra rendre ces jours de jeûne d'affilée.
Non. Il y a beaucoup d'avis sur la question. L'avis le plus prépondérant est celui qui rejoint le hadith de Sayyida Aïcha qui ne récupérait ce jeûne obligatoire
qu'à la fin de Sha'ban.
Qu'avant Ramadan, c'est-à-dire au mois de Sha'ban. C'était vraiment vers la fin pratiquement de l'année, juste avant Ramadan. Donc non, la femme qui a raté ce jeûne, vous savez, dès lors où l'on est animé par l'intention de récupérer ce jeûne, même si on ne le récupère pas, parce que Dieu seul sait si nous allons vivre jusqu'au prochain Ramadan ou pas, même si on ne le récupère pas, l'a'mal ou bi maqasidaha innama l'a'mal ou bi niyat. Nous ne pouvons qu'espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un salaire pour ce jeûne manqué à la femme qui avait l'intention de jeûner ces jours-là.
Et puis comme disait Sayyida Aisha alayhi salam wa radiyallahu anha, à propos du prophète, il disait entre deux mots, il faudrait choisir le moindre.
Oui.
Donc pourquoi se contraindre à rendre ces journées de jeûne d'affilée alors qu'on peut les séparer, les espacer,
oui.
Surtout pour quelqu'un qui a par exemple une maladie chronique.
Pas forcément.
Bah, hein.
Sayyida Aisha n'était pas atteinte d'un mal chronique.
Oui.
Elle a journé, elle différait ce jeûne jusqu'au mois de Sha'ban de l'année qui est du prochain Ramadan.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission dédiée aux questions de nos amis auditeurs. Kamal Chakat, merci pour toutes ces réponses. Nous reviendrons la semaine prochaine avec un panel de questions autour donc de l'exégèse du Coran et d'autres sujets très importants donc pour la compréhension de la religion et pour une meilleure assiduité et conformité au culte.
Inch'Allah.
Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Passez une belle semaine à l'écoute de Radio Al-Jishan 3 et bon week-end à tous. Au revoir.